Choix Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 juillet 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Kenya, manifestation à travers le pays contre les exécutions extrajudiciaires.
En République démocratique du Congo, les autorités du Sud Kivu s'insurgent contre le rapport de Global Witness selon lequel des groupes armés reçoivent de l'argent et des armes d'une entreprise minière chinoise.
Au Sénégal, le président Macky Sall ne veut plus d'enfants mendiant dans les rues.
En Syrie et avant la Syrie, Bachar al-Assad a décrété hier une trêve de 72 heures à l'occasion de l'Eid el-Fitr et entretien téléphonique entre Barack Obama et Vladimir Poutine.
C'est officiel, Hillary Clinton ne sera pas poursuivie pour avoir utilisé un serveur et une messagerie d'e-mail privée, a annoncé la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch.
Et en dernière minute, au Bangladesh, un policier tué et 5 blessés dans l'explosion d'une bombe et une fusillade. Ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Des milliers de Kenyans ont manifesté hier à travers leur pays contre des exécutions extrajudiciaires, des manifestations qui surviennent quelques jours après la découverte des corps d'un avocat, de son client et d'un troisième homme porté disparu depuis le 23 juin. Les précisions de Félix Yepasis Zembrou.
Les corps de Maître Willy Kimani, de son client Josepha Mwenda, un conducteur de moto-taxi, ainsi que de Joseph Mouirouri, un taximan, ont été repêchés vendredi d'une rivière. Le rapport d'autopsie note que les trois hommes ont été torturés à mort. Plusieurs policiers ont été arrêtés en rapport avec cette affaire. Mercredi, des centaines d'avocats ont convergé sur le quartier général de la police kényane à Nairobi pour dénoncer le laxisme des autorités. Des Kenyans en colère ont incendié un commissariat de police. Un acte dénoncé par l'inspecteur général de la police kényane qui s'est toutefois engagé à traduire en justice les auteurs du meurtre des trois hommes. Selon une ONG locale, le Kenya a connu 520 exécutions extrajudiciaires depuis 2013. Le gouvernement kényan a entrepris de soumettre des milliers de policiers à une enquête de moralité dans l'espoir d'améliorer l'image bien ternie de la police nationale.
En Gambie, le président Yahya Jammeh a annoncé le licenciement de 27 fonctionnaires, dont des responsables gouvernementaux, pour mauvaise utilisation des moyens de l'État. Selon un communiqué diffusé par les médias publics, les 27 personnes concernées ont vendu frauduleusement aux enchères 545 véhicules du gouvernement. Yahya Jammeh a averti qu'il n'accordera pas d'amnistie et qu'il sévira contre ceux qui pensent profiter des célébrations du 22 juillet ou de l'année électorale en Gambie. Il a pris le pouvoir le 22 juillet 1994 et il est candidat à sa propre succession en décembre.
Sénégal, plus d'enfants mendiant dans les rues. Ainsi en a décidé Macky Sall. Le président sénégalais a annoncé la mesure hier après la grande prière de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du ramadan. Le point avec Eddy Isongo.
Le chef de l'État du Sénégal a déclaré hier avoir donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à ce qu'il qualifie d'image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. M. Sall a menacé des sanctions, ce qui pousse ses mineurs à quémander. Une étude gouvernementale réalisée en 2014 estime à plus de 30 000 les nombres de ces enfants talibés à Dakar. Beaucoup sont originaires des pays voisins. Ils sont généralement confiés à des maîtres coraniques à la tête des Dahara, écoles coraniques en langue wolof. Leurs maîtres les font vivre dans la précarité, les exploitent en les forçant à mendier et à rapporter des quotas journaliers d'argent et des denrées sous peine d'être battus, selon divers témoignages. Le président Sall a appelé tous les pays à se mobiliser contre la mendicité des enfants, affirmant que ce n'était pas une question religieuse, puisque les vrais Dahara qui enseignent ne laissent pas leurs talibés traîner jour et nuit dans les rues. Cela n'a rien à voir avec l'islam, a martelé Macky Sall. Une mesure similaire avait déjà été prise par Abdoulaye Wad en 2010 sans porter de fruits.
Signalons, et je le disais en titre, qu'un policier a été tué et 5 blessés jeudi au Bangladesh après l'explosion d'une petite bombe et une fusillade près d'un important lieu de rassemblement pour l'Eid el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, a annoncé la police à l'AFP. Selon les médias locaux, une attaque de djihadistes est en cours près d'un lieu de prière où au moins 200 000 personnes sont rassemblées pour cette prière dans le district nord. Cette attaque intervient quelques jours après le massacre de 20 otages à Dakar, revendiqué par l'organisation État islamique. Un agent de police est mort et au moins 5 ont été blessés, a dit à l'AFP Mahoud, un responsable de la police. Une fusillade est en cours entre la police et un groupe d'assaillants, selon les images de la chaîne privée Somoy TV, qui rapporte qu'un policier a été tué à coups de machette.
Le président Barack Obama s'est entretenu par téléphone hier avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Ils ont discuté de la situation en Syrie et de la nécessité pour Moscou de faire pression sur le régime syrien pour un arrêt durable des attaques contre les civils et les groupes qui ont accepté une cessation des hostilités. Selon la Maison-Blanche, messieurs Obama et Poutine ont réaffirmé leur détermination à défaire le groupe État islamique et le front al-Nosra, la filiale d'Al-Qaïda en Syrie.
L'ex-premier ministre britannique Tony Blair a présenté ses excuses pour les erreurs liées à l'intervention en Irak en 2003, relevées dans un rapport paru mercredi, mais a défendu cette guerre qui a, selon lui, rendu le monde plus sûr. John Chilcot, président de la Commission sur l'engagement du Royaume-Uni en Irak aux côtés des États-Unis, a pourtant dressé un bilan accablant de son action. L'ex-président américain George Bush estime lui aussi que le monde entier se porte mieux sans Saddam Hussein.
Les États-Unis ont imposé hier leur première sanction individuelle contre le leader nord-coréen Kim Jong-un pour de graves violations des droits de l'homme allant d'exécutions extrajudiciaires à des actes de torture. Précision de John Lyndon.
Le Trésor américain a placé sur sa liste noire le dirigeant de 33 ans ainsi que 10 autres responsables du régime communiste nord-coréen, souvent présenté comme l'un des plus répressifs du globe. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés, précise le Trésor dans un communiqué. Sous Kim Jong-un, qui a pris la succession de son père en 2011, la Corée du Nord figure parmi les pays les plus répressifs, avec des restrictions importantes à l'exercice des libertés fondamentales et de graves violations des droits de l'homme, affirme le Trésor américain. Selon l'administration américaine, de 80 000 à 120 000 personnes sont détenues dans des camps de prisonniers politiques en Corée du Nord. Le régime nord-coréen est déjà sous le coup de nombreuses sanctions internationales, mais c'est la première fois que le leader nord-coréen est individuellement ciblé par les autorités américaines.
Confrontées à des réactions indignées, les autorités américaines ont lancé mercredi une enquête fédérale sur l'homicide par balle en Louisiane d'un vendeur ambulant noir maintenu au sol par des policiers. Des détails avec Nathalie Barge.
Le principal organe chargé de l'enquête sera la division des droits civiques du ministère de la Justice, assistée du bureau du procureur de la Louisiane et du FBI, a annoncé John Bel Edwards, gouverneur de la Louisiane. La Maison-Blanche a proposé son aide, a indiqué Kip Holden, le maire de Baton Rouge, la ville où Alton Sterling vendait des CD sur un parking. À l'arrivée des policiers, Sterling était armé et l'altercation qui a suivi s'est conclue par la perte de sa vie, a déclaré Carl Dabadi, le chef de la police locale. Il s'exprimait après une conférence de presse des membres de la famille de M. Sterling qui ont demandé que justice soit faite. L'un des enfants a éclaté en sanglots tandis que sa mère, Kenyetta McMillan, parlait au micro. « J'appelle quiconque avec assez de courage dans cette ville à aller arrêter ces deux agents. Si le système est le même pour tous, il doit l'être aussi pour eux », a déclaré Mme McMillan.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro et Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
12 ans après, le Portugal en finale de l'Euro.
Oui, les Portugais ont logiquement battu les Gallois 2-0 hier à Lyon lors de la demi-finale de l'Euro 2016. Nani et Cristiano Ronaldo buteurs lors de ce match. Le Pays de Galles de Gareth Bale va donc rentrer à Cardiff avec tous les honneurs malgré cette défaite. À noter que Cristiano Ronaldo est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Euro en compagnie de Michel Platini avec 9 buts à son compteur. Retour sur cette rencontre avec Jean-Roger Billon.
12 ans après la France subie contre la Grèce lors de l'Euro 2004, le Portugal jouera de nouveau une finale d'un championnat d'Europe. La sélection en haut de Cristiano Ronaldo a signé sa première victoire dans le tournoi avant prolongation. Après une première période terne, le Portugal a ouvert le score en début de seconde période par l'intermédiaire de Cristiano Ronaldo à la 50e minute, avant que Nani, à la 53e minute, n'offre un succès plus large à son équipe. Le Portugal l'emporte donc logiquement à la fin du match. Les hommes de Fernando Santos ne sont plus qu'à 90 minutes d'un exploit retentissant. En finale, le Portugal affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale entre l'équipe de France et l'Allemagne qui aura lieu ce jeudi 7 juillet à Marseille. Quoi qu'il arrive, les hommes de Fernando Santos affronteront donc une de leurs bêtes noires lors de la finale dimanche 10 juillet au Stade de France à Saint-Denis. Toujours en quête d'un premier titre international, la sélection en haut disputera la deuxième finale de son histoire dans un championnat d'Europe.
L'autre demi-finale, France-Allemagne, c'est ce soir, 19h temps universel à Marseille.
Les Bleus qui veulent absolument être au rendez-vous dimanche en finale, ils devront s'employer pour vaincre les champions du monde allemand. Comment les hommes de Didier Deschamps peuvent se qualifier? Certainement en mettant en avant leur esprit de revanche. Les éléments de réponse à Paris avec Christian Mpanzou.
2 ans, voilà 2 longues années que l'équipe de France attend de retrouver l'Allemagne en compétition officielle. La dernière fois, c'était lors du Mondial 2014 au Brésil. Les Allemands avaient éliminé la France au stade Maracana. Une défaite qui est restée dans l'esprit des joueurs français et notamment chez Antoine Griezmann, en larmes sur le terrain à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, l'équipe de France ne fait plus de complexe et aborde cette demi-finale en pleine confiance. Meilleure attaque avec 11 buts, les Bleus font même peur aux médias allemands qui ont ciblé 4 joueurs à stopper. Griezmann, Giroud, Payet et Pogba. L'Allemagne, de son côté, devra composer avec les absences de Mario Gomez et Sami Khedira blessé. Schweinsteiger est incertain et Mats Hummels est suspendu. L'ossature allemande reste tout de même de classe mondiale et leur expérience à ce niveau de la compétition pourrait faire la différence. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Merci Christian. Et autre avis sur ce match, des Allemands favoris car champion du monde en titre, celui de notre consultant football, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Au plus fort de la domination allemande dans les années 90, l'avant-centre anglais Gary Lineker définissait le football par cette boutade devenue célèbre. Le football est un jeu qui se joue en 11 et où l'Allemagne finit toujours par gagner. Il y a une grande équipe qui l'a bien vérifié depuis 58 ans et la Coupe du Monde en Suède, c'est la France. Entre-temps, quelle que soit la compétition officielle, les Allemands ont toujours traversé la ligne Maginot et les Français ont dû ressasser leur amertume. Certaines images restant focalisées dans les mémoires, comme celle de l'immolation de Battiston à Séville en 1982. C'est donc une France revanchable qui retrouve l'Allemagne ce jeudi dans une finale avant la lettre, pour laquelle tous les clignotants sont ouverts. Tout d'abord, la France a énormément progressé. Sa légion africaine lui a apporté l'impact physique qui lui manquait souvent contre l'Allemagne. Et sa politique de formation a permis de produire une pléthore de grands attaquants rodés dans les plus grands clubs européens où il leur arrive de côtoyer et de dominer des joueurs allemands désormais plus prévisibles. Mais ce sont surtout les circonstances qui lui sont favorables dans cette dernière ligne droite. Les joueurs sont moins éprouvés, son effectif est complet, là où l'Allemagne déplore la perte de 4 joueurs clés et décisifs. Alors les supporters français se mettent à rêver de parodier Lineker au soir de la rencontre en corrigeant « Le football est un jeu qui se joue en 11 et où la France a fini par battre l'Allemagne. À demain. »
Le reste de l'actualité sportive, en bref, et on commence par les ennuis judiciaires de Lionel Messi.
Lionel Messi fera appel devant la Cour suprême espagnole de sa condamnation à 21 mois de prison pour fraude fiscale avec son père. La star argentine, condamnée pour avoir fraudé sur les revenus liés à ses droits à l'image entre 2007 et 2009, il devrait cependant échapper à l'incarcération si la peine était confirmée.
Le Tour de France cycliste.
Au terme d'une longue échappée achevée en solitaire, le Belge Greg Van Avermaet de l'équipe BMC a remporté hier à Luron la 5e étape du Tour de France. Il prend les commandes du général avec une avance significative.
C'était le journal de l'Euro, présenté par Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les autorités de la province du Sud Kivu s'insurgent contre le dernier rapport de l'ONG Global Witness qui accuse une compagnie minière chinoise, Kunhu Mining, de payer et d'armer des milices pour tranquillement exploiter l'or du lit de la rivière Ulundi. Timothée de Nangmaï a recueilli la réaction d'Apollinaire Boulumbi, ministre des Mines de la province du Sud Kivu. Malheureusement, la mauvaise qualité technique de cet entretien par téléphone ne nous permet pas de le diffuser. De quoi s'agit-il? Eh bien, Global Witness, dans son document, reproche aux autorités locales de ne rien faire contre cette pratique qui occasionne un manque à gagner en taxes sur une production artisanale d'or de quelque 38 millions de dollars en 2015 dans cette province. Eric Manirakiza a joint à Londres la chercheuse auprès de Global Witness, Sophia Peckles.
Les femmes qui opèrent au Congo agissent en violation flagrante de la législation congolaise sur les chaînes d'approvisionnement pour s'assurer qu'ils s'approvisionnent dans une manière responsable. Et ça, c'est une loi au Congo depuis 2012. Nous avons remarqué que les autorités provinciales, aussi Kivu, n'ont pas bien respecté le mandat. Et nous exigeons que le gouvernement congolais doit réclamer des comptes aux responsables provinciaux lorsqu'ils négligent d'exercer leurs devoirs dans le secteur orifère artisanal, comme au Shabunda, ou lorsqu'ils opèrent dans les légalités aussi.
Y a-t-il des intérêts pour le compte des autorités locales ou provinciales ou même Kinshasa?
Le ministre des Mines de Sud Kivu de l'époque et les membres de son équipe ont appuyé publiquement l'affirmation de Kunhu Mining que l'entreprise n'a pas exporté de l'or pendant la ruée vers l'or. Mais au début de l'année 2016, les autorités provinciales de Sud Kivu ont modifié leur version de fait. Et en fait, tout au long de cette période, les autorités à Kinshasa ont exprimé des inquiétudes face à ce qui s'est passé au long de la rivière Ulundi. La société civile congolaise aussi a réclamé ce qui s'est passé à Shabunda. Et c'était juste en 2015 que le ministre des Mines à Kinshasa, Martin Kabuludo, a ordonné la saisie immédiate des dragues de la production d'or de Kunhu Mining par les autorités provinciales au Sud Kivu. Malheureusement, en mars 2016, deux témoins ont confirmé à Global Witness que l'activité continue à Shabunda, que les dragues de Kunhu étaient encore là sur le lundi. Alors nous avons vu que la situation n'a pas vraiment changé. Il n'y avait pas une réponse responsable des autorités du Sud Kivu.
Comment arrêter cela?
Le gouvernement congolais doit réclamer des comptes aux responsables provinciaux lorsqu'ils négligent d'exercer leur devoir ou lorsqu'ils opèrent dans l'illégalité. Deuxièmement, les femmes qui opèrent illégalement au Congo, telles que Kunhu Mining, devraient faire l'objet d'une enquête. Et s'ils ont réseau des preuves d'actes répréhensibles, des poursuites devraient être engagées à leur encontre.
Encore une fois, les autorités du Sud Kivu s'inscrivent en faux contre ce rapport. Sophia Peckles à Londres.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
La justice française a condamné à la réclusion à perpétuité hier à Paris deux anciens bourgmestres rwandais, accusés d'avoir participé au génocide de 1994. Ce jugement intervient après de nombreuses condamnations prononcées dans le monde pour des faits liés à cette tragédie. Le rôle de la France a été très critiqué lors du génocide. Pour une réaction de Kigali, nous retrouvons Eric Manirakiza, qui a joint dans la capitale rwandaise le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, le docteur Jean Damasène Bizimana.
C'est une réaction de joie et en même temps une réaction de justice parce que ces deux messieurs ont abusé de leurs fonctions. Ils étaient maires, c'est-à-dire qu'ils étaient bourgmestres. ils étaient détenteurs d'autorité. Ils ont eu un rôle de participation et d'organisation des massacres et du génocide dans la commune qu'ils dirigeaient. Ils se sont attribués le rôle d'organisation des massacres et en même temps de fourniture d'armes et d'organisation des miliciens, puisqu'ils se sont aussi du Rwanda en espérant bénéficier d'un asile aisé et pacifique en France. Et il est très important qu'ils soient reconnus coupables d'organisation et de planification du génocide, même en dehors du Rwanda. Deuxième élément, c'est pour les victimes rescapées, ils attendaient que cette justice soit rendue. Donc c'est très important que ce procès soit fait, et d'autant plus que ça se fait dans un pays comme la France qui, dans les années passées, n'avait pas franchi ce pas de faire des procès, de parvenir aussi à des sanctions et à des jugements exemplaires, comme ce fut le cas.
Pour vous, est-ce un dossier qui ramène la confiance entre la justice rwandaise et la justice française?
C'est plutôt un procès qui concerne des individus qui sont reconnus coupables. Et nous souhaitons que, évidemment, la justice française poursuive ce pas. L'année dernière, au mois d'octobre, la BNCCK a bénéficié d'un non-lieu, alors que Mnishaka, c'était le grand criminel que nous connaissons ici dans le pays, qui seulement un rôle dans le génocide, mais a collaboré avec l'ancien préfet de Kigali, le colonel Tarcisse Nzaro, dans la planification du génocide auprès de Sainte Famille et du centre pastoral Saint-Paul. Et il y avait des preuves évidentes que le tribunal pénal international pour Rwanda avait réuni. Mais malgré tout, la justice française a écarté les poursuites contre Mnishaka. N'oublions pas cela. Et n'oublions pas non plus qu'il y a d'autres criminels, comme le colonel Serubuga, comme Stanislas Mbonamika et autres, qui sont en France. Les médecins Guamoutier Eugène, comme Sostène Mouniemana, qui ont commis le génocide à Boutaré, qui n'en sont pas poursuivis, et bien d'autres criminels. Mais nous souhaitons que d'autres dossiers puissent aussi parvenir au résultat au même chemin.
Est-ce que vous allez demander l'extradition des condamnés pour qu'ils terminent le reste de leur prison au Rwanda?
Ce n'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est qu'ils soient jugés, qu'ils purgent la peine pour le crime qu'ils ont commis.
C'était de Kigali, Jean Damascène Bizimana.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
En République centrafricaine, chose jamais vue depuis le déclenchement des affrontements intercommunautaires en 2013, plus d'une centaine de musulmans ont célébré hier à Bangui l'Eid el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, avec les non-musulmans du 6e arrondissement, et ce en dehors de la cérémonie organisée à la grande mosquée du PK5. Compte rendu de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
C'est dans la ruine de la mosquée de Pétévo, détruite pendant la crise, que s'est déroulé l'Eid el-Fitr dans le 6e arrondissement. Plus d'une centaine de musulmans ont bravé la peur et se sont joints à des centaines de non-musulmans pour célébrer cette fin du Ramadan. Comme à l'accoutumée, assis sur des nattes, les hommes devant, les femmes et les enfants derrière. Un moment de joie pour Abdoulaye Wasselégué, imam de la mosquée détruite de Pétévo.
C'est la grande joie, puisque la victoire de Dieu est descendue. Cette victoire, accompagnée de la grâce divine, nous a permis de retrouver l'élan de la cohésion qui existait déjà entre toutes les communautés ici, dans notre arrondissement. C'est pour cela que vous voyez même les festivités du mois de Ramadan qui se passe en ce moment-ci. Plus de 3 ans, nous n'avons pas pu célébrer la prière rituelle dans cette mosquée. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc c'est une grande joie pour moi.
La cérémonie est marquée par des prédications à l'allure d'une véritable sensibilisation à la cohésion sociale et au vivre ensemble. L'imam Bamanga Wabouza, un des prédicateurs, appelle au respect des principes de l'islam.
Le Coran nous exhorte à la paix. Le bon Dieu, dans le Coran, il s'appelle As-Salam, la paix. Donc le bon Dieu, c'est la paix. Un bon musulman ne doit pas aller tuer. Un bon musulman ne doit pas aller prendre quelque chose en force, ne doit pas garder l'arme avec lui. Ce n'est pas le devoir d'un bon musulman. Donc nous demandons à ceux-là de se reconscientiser, de chercher à être des bons musulmans, au lieu de rester dans cette habitude qui termine le nom de notre religion, ce n'est pas bon.
Conviés à la manifestation, les jeunes du 6e arrondissement se sont engagés à protéger ce lieu de culte, même s'il n'est pas encore reconstruit. Saint-Cyr Ouaté est président de la jeunesse du 6e.
La mosquée est égale à l'église. L'église est un lieu sacré. Donc aujourd'hui, dès que la fête de Ramadan a eu lieu dans cette mosquée, encore délabrée, mais c'est déjà un endroit sacré. C'est pourquoi j'invite la jeunesse, non maintenant plus de jeux dans la mosquée, que la devanture de la mosquée ne soit plus l'endroit de décharge des ordures, que nos frères frères musulmans viennent le matin pour faire leur prière habituelle, même le vendredi également pour leur prière.
C'est la première fois depuis 3 ans que musulmans et non-musulmans se retrouvent ensemble à l'occasion d'une fête musulmane dans le 6e arrondissement après la crise qui a frappé le pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Les Brazzavillois se plaignent des surcoûts des communications téléphoniques. Les abonnés dénoncent la mauvaise facturation des communications. Nombreux se disent désabusés alors que l'autorité de régulation des télécommunications vient de lancer un audit sur les prix. L'Observatoire des consommateurs crie à l'arnaque. On fait le point avec Nguela Ngoussou à Brazzaville.
Dans les rues de Brazzaville, de nombreux abonnés des sociétés de téléphonie mobile se plaignent de surfacturation de leur consommation. Certains n'hésitent pas à poster leurs déboires sur les réseaux sociaux, accusant ces sociétés d'arnaque.
J'interroge mon crédit, on me dit que j'ai 0 franc. J'ai failli, comme, en tout cas, permettez-moi l'expression, mais j'ai pété un câble parce que je ne peux pas comprendre qu'un crédit de 1000 francs, j'ai activé un forfait de 75 francs. S'il fallait que ça finisse, mais ils ne pouvaient pas prendre tout ce crédit. Bon, là, il faut qu'ils m'expliquent. Franchement, ce n'est pas normal. C'est de l'arnaque pure et simple.
En tant que consommateur, nous recevons certaines informations, des messages, parfois désagréables, qui sont parfois taxés. On veut profiter de notre ignorance pour se faire de l'argent.
Mermos Babunga, responsable d'une association de consommateurs, parle même d'un préjudice de plus de 300 millions de francs CFA le mois. Il s'est adressé à l'autorité de régulation des télécommunications, mais n'est pas satisfait de la suite à lui réservée.
Notamment Airtel et MTN, il faut les citer, parce que ce sont eux les opérateurs dominants dont il s'agit. Maintenant, au niveau de l'ARPCE aussi, nous, en tant qu'observateur congolais des droits des consommateurs, nous soupçonnons une certaine connivence entre le régulateur et les opérateurs de téléphonie. Mais oui, c'est de l'arnaque, puisque c'est au mépris de la loi.
Et pourtant, l'autorité des régulations explique qu'il n'y a jamais eu plusieurs prix. C'est l'ancienne tarification qui s'applique à ce jour. Antoine Ndekololo, directeur de l'économie et des marchés à l'ARPCE.
Il y a l'État qui a instauré une taxe sur la communication électronique. Et du coup, on s'est vu que pour ne pas trop pénaliser, n'est-ce pas, le consommateur, il était donc question de retirer cette décision sur les tarifs plafonds. Nous avons demandé aux opérateurs de revenir sur les tarifs qu'ils pratiquaient avant. Nous avons commandé un outil tarifaire qui est présentement en cours. Et donc, après cet audit, on va peut-être demander à certains de revoir le tarif à la hausse ou bien à baisse, selon que les résultats de l'audit tarifaire l'indiqueront.
Les sociétés indexées, elles, n'ont pas souhaité réagir. Elles estiment travailler à la satisfaction de leurs abonnés et promptes à résoudre le moindre problème. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
La Minute Éco, John Linden.
L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, ne pourra pas maintenir les spectaculaires taux de croissance de plus de 10% par an. C'est ce qu'a annoncé son premier ministre. Les autorités éthiopiennes avaient initialement prévu une croissance de 11% pour 2015-2016, mais ces prévisions ont été revues à la baisse. Canal Plus se déploie en RD Congo après Pointe-Noire en février dernier. Le groupe a annoncé le lancement hier de son offre TNT payante Easy TV à Lubumbashi, deuxième ville de RD Congo. Cette offre comprend 30 chaînes, dont 4 congolaises, RTNC, Antenne A, B1 et Malaika. Selon Jeune Afrique, ce déploiement aura nécessité environ 1 million d'euros d'investissement dans les infrastructures de diffusion. Cdiscount met un terme à ses activités au Cameroun et au Sénégal. Le groupe français de commerce en ligne, déçu par ses résultats, mais aussi impacté par des difficultés au Brésil, plie bagage après moins de 2 ans d'activité. Il maintient pour l'instant ses opérations en Côte d'Ivoire.
Numéro exceptionnel de Washington Forum sur l'esclavage, qu'il soit ancien ou moderne. Nous serons en présence de Biram Dah Abeid, figure mauritanienne de la lutte contre l'esclavage, libérée le 17 mai dernier après 20 mois de prison, alors qu'au moins 14 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été arrêtés cette semaine à Nouakchott. Alors la Mauritanie tient-elle un double discours sur sa loi anti-esclavage? Quelle est la situation ailleurs dans le monde? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.